Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 mars 1989.
À propos de la sagesse de la croix, quelle différence faites-vous entre la glorification du Père et la manifestation de son amour? Il semble que la gloire, c'est plus au niveau personnel, et la manifestation à niveau de témoignage pour les autres. Oui, c'est tout à fait juste. Par ailleurs, la manifestation implique la victoire de l'amour. Elle est donc seconde par rapport à la gloire. Ça, je ne suis pas absolument sûr. Je crois que la gloire, c'est toujours la victoire de l'amour. La victoire de l'amour fonde la gloire. Je mettrai comme ça, si vous voulez, pour qu'on essaie de bien comprendre. C'est des notions très difficiles. J'ai lu une fois à Fribourg toute une thèse sur un étudiant qui faisait en exégèse le mystère de la gloire de Dieu à travers toute l'Écriture, ça ne m'a pas donné un pouce de lumière. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question de la gloire. Vous voyez, ça correspond à la beauté. C'est sûr, il y a des liens. Et saint Thomas ne parle pas ni de la sainteté ni de la gloire. Donc c'est la théologie mystique qui doit parler de la gloire, comme de la sainteté. Parce que dans l'Écriture, c'est constant la gloire de Dieu. Alors, on fera bien la distinction gloire intrinsèque, gloire extrinsèque, puis c'est tout. Si vous êtes saint, vous le glorifiez Dieu extrinsèquement. C'est pas ça qui m'intéresse tellement. Et c'est un peu une manifestation de la gloire extrinsèque. Je crois qu'il faut chercher qu'est-ce que c'est que la gloire. Alors, est-ce que, j'ai dit, je cherche, hein, comme vous, nous le verrons quand on sera dans la gloire. Et si je posais la question à Marthe, c'est évident. C'est sûr, c'est très clair. Il y a l'amour. Divin. C'est premier, ça c'est sûr. Et puis tout est autour de l'amour, pas de théologie mystique. La victoire de l'amour, je dirais c'est la gloire. Il me semble, hein, parce que si je prends l'analogie humain, quel est le sommet de la gloire? Qu'est-ce qui fonde la gloire? C'est, de fait, le général Jephté. C'est un grand général. Le général Jephté, qui est glorifié, comme tu restes humainement, tous les généraux, quand ils sont victorieux. La gloire est surtout manifestée dans les cas de critique, difficulté, de misère, vous voyez. C'est pour ça qu'elle est très liée à la victoire de l'armée. Les victoires politiques sont beaucoup moins glorieuses. Beaucoup moins. C'est que la victoire de la guerre, ça c'est beaucoup plus là où ça se voit. Donc, la gloire est toujours liée à la victoire. La victoire des armes. Ça, c'est le point de vue humain. Il y avait Dieu des armées, c'est lié à la gloire. Alors, il y avait Dieu des armées, c'est l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance intériorise tout. Alors, quelle est la victoire tout à fait intérieure? C'est la victoire de l'amour. Et c'est pour ça que la gloire, que le Fils donne à son Père, cette victoire de l'amour qui se réalisera à la croix. Et cette victoire de l'amour qui se réalise, c'est la manifestation, la croix. Donc, victoire de l'amour, la gloire, manifestation. Manifestation de la gloire. Manifestation par le fait même de la victoire de l'amour, c'est la croix. La croix est pour nous la plus grande manifestation. C'est la sagesse. Pour nous, la sagesse, elle est liée à l'amour. Elle est une avec l'amour. Et l'amour et la sagesse. Et puisque l'amour et la sagesse font un, il peut y avoir une manifestation, une victoire de l'amour, une proclamation d'amour. C'est ça la victoire. C'est ça, je veux dire, le mystère de la gloire, je crois. Donc le fondement de la gloire, c'est la victoire de l'amour. Et la proclamation de cette victoire, la manifestation, c'est la manifestation de la gloire. La gloire demande d'être manifestée. Mais intrinsèquement, c'est Dieu qui en vit. Extrinsèquement, c'est pour nous. Il se fera par la sagesse de la croix. Il me semble. Je vous dis, c'est très difficile. Ça n'a pas été très étudié exégétiquement. Il reste la théologie mystique qui doit dire le dernier mot. J'aimerais bien que vous y réfléchissiez, parce que c'est quelque chose de très beau, ça. Et c'est très grand. Dieu manifeste sa gloire. Et c'est lié à l'amour. Vous voyez, comme la sainteté. Alors, quelle différence entre la gloire et la sainteté? Le Dieu trois fois saint. Pourquoi il est trois fois saint? Ils ont déjà vu qu'il est trois fois glorieux. Raison, le Dieu trois fois saint. Et le Dieu trois fois saint annonce le mystère des trois personnes divines. Donc, la sainteté a quelque chose de personnel. La gloire rattachée plus à l'essence de Dieu, son amour et sa sagesse. Le sang. C'est pas pour rien, c'est pas laissé, vous connaissez quand on dit le Dieu trois fois saint, il y a une raison. Comment? La sainteté est liée à la très sainte Trinité. On ne dit pas le Dieu trois fois glorieux. Non. Il n'y a que la sainteté. Alors qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est l'amour vécu dans une fécondité d'amour. Pour saint Thomas, la sainteté implique deux aspects. La sainteté, telle que nous appelons la sainteté, la pureté et la communication. Il ne faut pas simplement être lumineux. Ce n'est pas seulement la lumière. C'est aussi la communication de la lumière, la sainteté. Vous voyez ? Donc, c'est la pureté de l'amour et la communication de l'amour. Alors on comprend, Dieu trois fois saint, c'est la fécondité dans l'amour. Vous voyez ? Trois fois saint ajoute quelque chose à la sainteté, explicite quelque chose à la sainteté, la communication immanente en Dieu par la fécondité. Et je crois qu'il faut constamment, puisque c'est en théologie mystique, c'est le mystère de la très sainte Trinité qu'on doit Essayez de comprendre comme amour, et tout se ramène à l'amour. Saint Thomas, lui, dans la Somme théologique, montre la manière d'exister de Dieu, la manière dont Dieu vit. C'est l'être et la vie spirituelle. Au point de vue mystique, ce n'est pas le point de vue de l'être, mais c'est le point de vue de l'amour. Dieu est substantiellement amour. Il est saint dans son amour, c'est la pureté absolue. Il n'y a rien qui s'ajoute à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tout. L'amour ne peut pas être terni. Il est une simplicité d'une pureté absolue. Et il est trois fois saint. Donc la communication ajoute quelque chose à la sainteté, ajoute, explicite quelque chose à la sainteté. C'est pour ça qu'il est trois fois saint. Oui. La révélation de la très sainte Trinité nous révèle quelque chose à la sainteté de Dieu. Tandis qu'on ne dit pas trois fois glorieux. C'est la victoire de l'amour, ça, je crois. Oui. Amour, gloire, sainteté. Je crois que ça se tient très très fort. Mais c'est pas la même chose. Et la sainteté, d'une certaine manière, est donc quelque chose de plus intime. Puisque c'est le mystère des trois personnes divines. La très sainte Trinité nous révèle une intimité en Dieu qu'on ne connaîtrait pas sans la révélation de la très sainte Trinité. C'est l'intimité la plus grande de Dieu. C'est le mystère de la fécondité, qui est la communication de l'amour, qui provient directement de l'amour, quelque chose de personnel. Et c'est pour ça que le mystère de la sainteté nous montre quelque chose de plus intime et de plus personnel. C'est plus intime, la sainteté que la gloire. Et c'est pour ça que c'est trois fois saint. Parce que c'est le mystère de la fécondité. Or, est-ce que la fécondité, est-ce que ce n'est pas justement l'aspect de la gratuité de l'amour, et donc de l'amour dans ce qu'il y a de plus personnel et de plus intime? Et c'est l'intimité de l'amour, la fécondité. La gloire, c'est la victoire. C'est moins intime. Mais la victoire, c'est très bien, mais c'est moins intime. C'est pas ça l'intimité la plus grande de l'amour, c'est la fécondité. Il y a là une intimité très, très, très mystérieuse, très unique. Vous voyez ça, un peu. Ce qu'il faut, petit à petit, vous voyez, quand on lit l'Écriture, on est toujours un peu déçu par les notes qui nous sont données, parce que c'est toujours un peu matériel. Parce qu'il n'existe pas de théologie mystique de la très sainte Trinité. Cherchez, n'en trouverez pas, sauf les écrits des mystiques. Venez. Marie de la Trinité, Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, Ursuline du Canada, au dire du cardinal Journet, étaient les écrits les plus merveilleux sur la très sainte Trinité. Il faut les lire. Pour aimer le Canada. C'est des choses, moi, qui m'ont le plus impressionné quand j'étais pour la première fois au Canada, c'était à Québec, de voir les écrits de Marie de l'Incarnation, écrits de sa propre main. C'est une écriture magnifique, étonnante, c'est un trésor. Alors on touche, vous voyez, on touche l'arrivée du christianisme au Canada. Ça, c'est très beau. C'est très grand. Et c'est une mystique, une grande mystique, qui a toujours et tout de suite été donnée pour le Canada. C'est pas étonnant. Le lien qu'il doit y avoir au plan spirituel entre le Canada et la France, Marie d'Incarnation. Il faut lire ça, parce que c'est... Il faut arriver petit à petit, vous voyez. C'est notre rôle, hein, dans l'Église. la philosophie, la théologie mystique. C'est ça qu'il faut vous dire. La théologie scientifique, elle nous est donnée par saint Thomas. Donc on entre dans saint Thomas pour ne pas dire de bêtises. La théologie scientifique, c'est le garde-fou. Parce que des mystiques sans théologie mystique, ils peuvent l'être hein, au fond de leur corps pour le Saint-Esprit, ça n'a pas d'importance. Mais ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas le communiquer aux autres. C'est la théologie scientifique qui permet de communiquer la mystique sans tomber dans des exagérations et de la mousse rose. C'est mystique qui se communique imaginativement, c'est ça. C'est très bien comme gâteau, mais comme la théologie mystique, ça ne va pas. Alors, il y a quelque chose qu'il faut saisir, que donne la théologie mystique. Elle donne ce caractère extrêmement simple, dépouillé. Il n'y a pas de fioriture. Et au fond, c'est ça qu'on doit comprendre. Le Dieu amour, c'est l'ultime révélation. La gloire et la sainteté. Alors, il faut peut-être mettre gloire, sainteté, qui conduit à l'amour. C'est possible. Pour nous, c'est l'amour qui nous fait comprendre la gloire et qui fait comprendre la sainteté. Vous voyez, génétiquement, en théologie, selon la théologie biblique, nous avons la gloire, la toute-puissance, la seigneurie de Dieu, la toute-puissance, la gloire, le Dieu trois fois saint, et l'amour. Et en théologie mystique, c'est on commence par l'amour, et l'amour donne la signification au Dieu trois fois saint. Il donne la signification à la gloire, il donne la signification à la toute-puissance. Le Dieu de l'islam, c'est la toute-puissance. Le Dieu chrétien, c'est l'amour. Ça, c'est très net. Hein. C'est pour ça qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas comprendre dans la perspective de l'islam, sauf les grands mystiques de l'islam. Alors, ils redécouvrent l'amour au-delà de la toute-puissance. Et quand je regarde l'aspect formel de l'islam, c'est très fort la toute-puissance. La toute-puissance liée à la gloire, vous voyez. Je peux expliquer la gloire par la toute-puissance. Et je peux expliquer la gloire par l'amour. Pas la même chose. La victoire de l'amour n'est pas la, c'est pas la même chose que dire la victoire de la toute-puissance. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des aspects de la toute-puissance. Hein. Dieu qui sabre. Hein. Alors c'est dit d'une façon très douce par les psaumes, mais, il faudrait dire d'une façon violente, Dieu sabre. Et c'est vrai. Il est cramant. Où est l'anathème ? C'est la toute-puissance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas d'autres langages. Et dans la mesure où nous ne comprenons plus le mystère de la parole de Dieu, Dieu, pour nous, ébranle la terre. C'est la toute-puissance. C'est le Dieu tout-puissant qui crée la terre. C'est le Créateur. Le Créateur, c'est le mystère de tout. Fondamentalement, c'est le Créateur. Et quand on ne comprend plus le Père, vous voyez, quand on ne comprend plus le Père, parce que le Père, c'est la miséricorde et l'amour. Je n'ai pas montré la miséricorde, hein. La gloire, la miséricorde. Je crois qu'elle est là. Selon l'ordre biblique, selon l'ordre génétique. Vous voyez ? gloire et de puissance, miséricorde. J'ai vu la misère de mon peuple. L'Exode, ce grand passage de l'Exode, la vocation de Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. Vous voyez, la miséricorde cache la gloire. Ça, c'est sûr. Le Dieu trois fois saint, Isaïe, parle d'amour. Alors, on doit voir l'amour, la sainteté, la miséricorde. Allez, là je reprends, pour que vous voyez mieux. À propos de la sagesse de la croix, quelle différence faites-vous entre la glorification du Père et la manifestation de son amour? Il semble que la gloire est plus à un niveau personnel et la manifestation à un niveau de témoignage pour les autres. Par ailleurs, la manifestation implique la victoire de l'amour, je dirais la manifestation, oui, mais la gloire aussi. Elle est donc seconde par rapport à la gloire. C'est sûr, la manifestation est seconde par rapport à la gloire. Dieu se manifeste, Dieu se révèle, c'est second. Mais c'est quand même important. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de question, oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la miséricorde entre la sainteté et l'amour?
Je prends l'ordre génétique. Oui. Oui. Et je respecte cet ordre. Je crois qu'en théologie biblique, ça n'a pas été fait non plus. C'est à nous à le faire. Mais je rêve toujours ça, je mourrai avant, mais qu'on puisse voir chacun des livres de la Bible selon l'ordre qui nous est donné, avec une couleur différente. Parce que je crois que chaque livre de la Bible nous révèle un aspect de Dieu. Alors, il y a ce grand aspect. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit lire la Bible. Et alors, on atteint le sommet, l'amour, et puis après, vous voyez que tout est assumé. Ça, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est le mystère du Christ, hein, puisque le Christ est là. Le Christ est la révélation dernière. Jésus-Christ. C'est lui qui nous manifeste l'amour. Alors, Dieu est lumière, vous voyez. La lumière, c'est entre la toute-puissance et la gloire, là. La lumière. Et la lumière est très joannique. La lumière est impliquée dans la gloire, ça c'est sûr. La miséricorde, je la mets après. Vous voyez? Alors vous allez me dire que c'est la victoire de l'amour. Oui, mais quand c'est révélé dans l'ordre génétique, la gloire exprime une victoire. La victoire de la toute-puissance. La victoire de la lumière, la sagesse. Et alors c'est sûr que la sagesse, elle est là, les livres sapientiaux. Il me semble, hein, ce l'ordre génétique. Il faut respecter l'ordre génétique de l'Écriture. Et quand vous lisez l'Écriture, c'est pour ça que c'est bon de lire l'Écriture depuis le début jusqu'à la fin, en vous posant quelques questions. La grande révélation du mystère de Dieu. Quel est l'ordre génétique? Mais quelle est la lumière qui nous est donnée pour découvrir cela? Ça nous aide beaucoup, ça, à contempler Dieu. Et alors après, ce que dit saint Thomas prend une force énorme. Et c'est différent. Hein. L'ordre de saint Thomas n'est pas du tout l'ordre biblique. Pas du tout. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Saint Thomas connaissait la Bible mieux que nous, donc il aurait pu prendre un ordre biblique, pas du tout. Il prend un ordre de sagesse presque métaphysique. Puisque la métaphysique, elle n'a pas d'autre rôle que de parler de Dieu. qu'elle ne peut nous parler de Dieu correctement, le croyant, le théologien, laisse passer devant cette sagesse pour mieux montrer où s'est révélé le Dieu trois fois saint. Philosophiquement parlant, je peux parler de la toute-puissance de Dieu. Je peux parler de la lumière. Je peux parler de la gloire. Je peux parler de la miséricorde. Je peux parler de la sagesse. Je peux parler d'amour. Dieu trois fois saint, non. Parmi les attributs de Dieu, vous voyez, il y en a un qui a un caractère tout à fait particulier, le Dieu trois fois saint. Évidemment, faisons attention. Hein. Quand, en métaphysique, je parle de la toute-puissance, de la lumière, je n'en parle pas dans la même lumière. Puisque quand j'adhère à Dieu, j'adhère toujours, au point de vue de la foi, j'adhère toujours au Dieu trois fois saint. Donc, dans la lumière, je veux dire, dans l'amour, était tout de suite le Dieu trois fois saint. Puisque je ne peux pas adhérer à Dieu dans la foi sans adhérer au Dieu trois fois saint. Toujours. Le Gloria pensait toujours au Dieu trois fois saint. Tout le temps. Dans la liturgie. Parce que ça, c'est la grande Sainte Thérèse qui dit qu'il faut toujours penser. C'est le Gloria qui doit prendre tout le poids. On ne penserait qu'au Gloria, c'est l'essentiel. Le Dieu trois fois saint, parce que quand il sabre, vous n'allez pas y penser beaucoup, n'est-ce pas ? Tandis que le Dieu trois fois saint, ça illumine tout. C'est pour ça que nous ne récitons pas les psaumes, nous les récitons comme Marie les a récités. Comme Jésus les a récités, mais pas comme David, ou comme les prophètes après David. On les récite dans la lumière de la très sainte Trinité, toujours. Mais il y a une double lecture de l'Écriture, une lecture où l'on monte, et une lecture au palier. Ce mouvement-là. Et ça, c'est le propre de la théologie biblique. On monte jusqu'à la croix d'une montée. Et après, l'Église, Marie, et l'Église, en elle. Vous êtes tout entier relatif à la croix de Jésus. Et il y a ce double mouvement pour tout. En théologie, ce que le concile nous demande, théologie de l'économie divine. Puisque le concile demande de refaire toute sa théologie dans la perspective de l'économie divine. Donc, dans cette perspective d'une théologie biblique qui nous conduit à la croix, et dans la croix, la blessure du cœur qu'il sommet. Et puis, Marie qui demeure. Comme Marie demeure, le mystère de la croix demeure en acte dans le cœur de Marie. Et par Marie, en Jean et dans l'Église. Donc c'est ça, utile au plateau. Ce n'est pas une descente. Hein. Faut pas dire comme ça, ce serait très fou. Cette montée, puis après, on va descendre. Puis alors, on a la pauvre Église de Philadelphie, elle est là. Et nous y sommes. C'est pas ça du tout. Hein. Non. Ça reste. La petite Marthe est sûrement une très grande sainte. Si au point de vue de son union à la croix, elle est toute proche de Marie, elle est là. Elle n'est pas là. Et l'Église doit porter cette sainteté de tous les saints. Vous savez que les derniers, c'est du grâce de Dieu. C'est les Benjamins, quoi. voyez toute la sainteté que vous me portez. C'est écrasant. Déjà d'après Marthe, c'est pas commode. Hein. Mais tous les autres, ils doivent être en acte. La sainteté de l'Église. Alors c'est pour ça que c'est le petit nombre. C'est pas étonnant. C'est la parole de la grande Sainte Thérèse. Elle reste toujours vraie. Seigneur, c'est pas étonnant que vous ayez si peu d'amis. La manière dont vous les traitez. Ça, oh, très bien. Et on comprend très bien. On comprend très bien qu'on a une frousse intense de la vie religieuse. Parce qu'on veut quand même la sainteté. Alors on a une frousse intense, qu'on en ait peur, c'est normal. Tout le temps, au moment de la profession, au moment de la prise d'habit, de la profession, enfin, on a une frousse intense. Bon, continuons. C'était bien ça pour bien comprendre ce mystère de la croix. La grande révélation d'amour. La grande manifestation d'amour. Et cette montée, là on peut dire, il y a une montée jusqu'à la croix. Alors on continue pour la sagesse de la croix. On verra pendant la semaine sainte, la dernière semaine, c'est sûr. Il faut comprendre comment Jésus a vécu cette dernière semaine. Comment Marie l'a vécu. Comment Jean, notre Père, l'a vécu. Comment Pierre l'a vécu. Comment Judas l'a vécu. On doit vivre cette dernière semaine. Et dans cette grande lumière. De Jésus. Alors il y a des moments qui sont particulièrement importants, c'est évident. Dans la dernière semaine, le jeudi saint. C'est le jeudi saint. De la liturgie, mais en pleine lumière. Les premiers jours de la semaine sainte, on ne sait pas très bien. C'est pour ça qu'on va à Rome, comprenez, on ne sait pas très bien. Et on rentre pour le jeudi saint. Les premiers jours de la semaine sainte, c'est la semaine sainte, il y a Béthanie. Béthanie a fait entrer dans la semaine sainte, de façon étonnante. C'est un repas. Un repas d'action de grâce et un repas qui engage clairement, ouvertement la lutte. C'est sûr que la parole de Jésus à Judas a fait l'éclatement. Laisse-la. C'est pour ma sépulture. Ce parfum d'un grand prix. Et ça, comment Judas a reçu ça? Il était déjà de très mauvaise humeur. Déjà depuis un certain temps. Et quand on est de très mauvaise humeur et qu'on reçoit une parole aussi cinglante, c'est un glaive qui sépare. Et qui sépare complètement l'attitude de Marie. La sœur de Lazare et Judas. Et Judas fait partie de ceux qui sont choisis officiellement. Marie fait partie de ceux qui sont cachés. Et elle verse ce parfum. Et elle le fait avec un très très grand amour. Ça c'est sûr. Vous voyez, la liturgie du dimanche fait entrer dans le mystère de la semaine sainte. Judas reçoit cette parole de Jésus. Je crois qu'il ne la reçoit pas du tout. Il la rejette. Cette parole est trop dure. Et depuis chapitre 6 dans Saint Jean, Judas demeure dans cette mauvaise humeur. Cette parole est trop dure. Chaque fois que vous dites ça, attention. Judas aurait dû quitter à ce moment-là. Vous allez voir, faites attention pendant la semaine sainte, combien on insiste sur Judas. De façon accablante. Tout le temps, ça revient. Bon, on ne parle pas tellement de Marie. Il y en a six sur Judas. Ce qui prouve que, dans la sagesse de Dieu, Judas joue un rôle important. Ça nous éclaire sur Marie. Ça nous fait comprendre l'inverse. Parce que l'attitude de Judas, on la comprend tous, psychologiquement. Judas est fou de jalousie. Et je crois que, selon l'évangile de Jean, on peut dire que Judas est fou de la jalousie de l'amour de Jésus pour Jean. Ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est bien dans une petite communauté, hein. C'est une serre chaude qui fait tout pousser, le bon grain, le mauvais grain. Alors, le bon grain pousse d'une façon étonnante, mais le mauvais grain pousse aussi. Quand j'étais père maître, je me souviens, un de mes amis psychologues m'a dit, mon père, c'est merveilleux, vous avez là un laboratoire psychologique étonnant. Alors je dis, père maître, t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour avoir un laboratoire psychologique. Vous voyez, l'affiche, selon chacun des frères, il y a des pères maîtres qui font ça. Et je crois que c'est pas ça du tout, père maître. Permettre, c'est d'aimer chacun pour les aider à cette lutte, à tout ce qui s'épanouit de bon et de mauvais. C'est pas un rôle psychologique, c'est un rôle divin. Et ça, c'est très important. Judas, lui, vit depuis le chapitre 6 dans une attitude de refus. Chapitre 6 en Saint Jean. Cette parole est trop dure. Au milieu de vous, il y a un démon. Jésus l'a dit. Et alors, ça ne cesse de croître, cette jalousie, cette opposition. Ça ne cesse de croître. Et je crois qu'il y a deux événements qui sont très importants dans cette semaine sainte. Ce repas d'action de grâce. Et dans cette action de grâce, le geste de Marie, ce parfum d'un grand prix versé sur les pieds de Jésus, qui irrite Judas, parce qu'il ne peut rien prendre et reprendre. C'est le propre du parfum qui manifeste la gratuité. Vous ne pouvez rien prendre. Judas aurait bien voulu reprendre la petite cuillère. Comme de ce temps-là, on est sur la pierre, le parfum coule. La pièce en est remplie. La fureur de Judas, de voir que pour Jésus, il y a une gratuité pure, le parfum. Il ne peut rien reprendre. Je crois que ça, c'est la jalousie qui commence. Et qui connaît à ce moment-là, elle a commencé avant, mais c'est la jalousie qui va éclater au moment où Jésus la dénonce. Laisse-la. Donc, pas supporter que quelqu'un aime gratuitement Jésus. L'aime follement. Le parfum d'un grand prix montre que ce n'est rien à côté de l'amour qu'on veut exprimer pour Jésus. Ce n'est rien du tout. Alors ça, c'est insupportable, au sens tout à fait rigoureux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. C'est insupportable. Et à partir de ce moment-là, c'est pas dit dans l'Écriture, mais c'est quand même assez net. À partir de ce moment-là, c'est décidé dans la pensée de Judas. Il est décidé de livrer Jésus. Et la semaine sainte commence par cela. La gratuité de Marie, la sœur de Lazare, et la décision de Judas de trahir à cause de la correction du Christ. Parce que Jésus prend la défense de celle qui l'aime. Et c'est toujours comme ça. Jésus prend la défense de Marie. Vous avez ensuite, à la scène, Jean qui repose sa tête sur le cœur de Jésus. Je crois que pour Judas, ça c'est le comble. Mais il y a encore gratuité, c'est curieux. Hein? Marie et Jean, les deux, la femme pécheresse qui a reçu toute la miséricorde, et Jean, le disciple préservé, bien-aimé. Les deux extrêmes. Comme Marie, la mère de Jésus, porte dans son cœur, elle est liée aux deux. Et Judas s'oppose aux deux. Il est jaloux des deux. C'est bien que la jalousie, elle est multiforme. L'amour tend vers l'unité, la jalousie se multiplie. On n'a pas qu'une seule jalousie, on en a 36. Ça dépend des circonstances, de temps et de lieu, ça dépend des personnes. La jalousie de Judas à l'égard de Marie, la sœur de Lazare, n'est pas du tout la même qu'à l'égard de Jean. Je crois que celle de Jean est bien plus tenace, puisqu'elle date depuis le début. Où Judas a été choisi, après Jean. C'est vrai, il a été choisi par Jésus, mais après Jean. C'est Jean qui a été choisi, le premier avec André, selon l'évangile de saint Jean. Et je crois que là, c'est vrai. Il y a là quelque chose qui a fait que dès le point de départ, il y a eu comme une espèce d'opposition. Judas, je veux dire, Jean le plus jeune, au moment de l'Eucharistie, l'amour, la tendresse de Jésus pour Jean, insupportable pour Judas. Et là, c'est l'exécution. Vous voyez, il y a la décision et l'exécution. Si je regarde au point de vue acte humain, la décision s'est faite en fonction de cette jalousie terrible. Et l'exécution, c'est au moment de la scène. Il décide de le faire. Tout est prêt. Mais l'exécution dernière, c'est à la scène. Et vous voyez le lien. Cette parole est trop dure. C'est l'annonce du pain de vie. Et l'exécution, c'est quand la réalisation de la prophétie. C'est important pour comprendre le mystère de l'Eucharistie, vous voyez. Du chapitre 6 de saint Jean au chapitre 13. Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter, qui peut la recevoir. La réalisation de ce don, ma chair est vraiment une nourriture, c'est la scène. Et Jésus n'avait rien dit. Il n'y a pas eu de préparation liturgique ou de répétition liturgique. Non, ça c'est le mystère de l'Esprit Saint. Il faut prendre l'improviste. Vous avez tout de suite le vivre. Le vivre divinement. Jean. Judas. C'est très, très important de comprendre cette tension. Oui, cette tension de la dernière semaine, la lutte à son paroxysme. À l'extérieur et à l'intérieur. La lutte à son paroxysme. Ça mène la croix. Et à l'intérieur de cela, comprendre le mystère de la sagesse divine de la croix qui nous est manifestée. Il fallait tout cela pour que la sagesse de la croix nous soit communiquée et pleinement communiquée. Pour qu'on puisse la comprendre, la recevoir. Il fallait tout cela, il fallait cette tension autour de l'Eucharistie. C'est quand même extrêmement significatif. Hein. La lutte suprême, ce n'est pas l'Eucharistie, c'est Jésus crucifié. Mais l'Eucharistie, qui nous est donnée par surcroît, c'est de fait l'occasion de la trahison, donc de l'inacceptation du mystère de la mort divin. La sagesse de la croix, donc, à ce premier moment autour de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le signe divin, donc on peut dire la manifestation de la sagesse de la croix. Ça oui, c'est la manifestation, c'est le symbole divin. Et c'est à travers la double consécration du pain et du vin qu'est manifestée la croix. Puis la réalisation concrète du mystère de la croix. Et dans cette réalisation concrète du mystère de la croix, le dernier moment, c'est le coup de lance. Il a fallu ça. Il a fallu qu'il y ait un cri de soif, qu'il y ait la remise entre les mains du Père de sa vie, de son esprit, de son pneuma. Et la blessure du cœur. Et la blessure du cœur va se continuer avec le mystère du sépulcre. La blessure du cœur commande tout le mystère du sépulcre. Et c'est important de saisir combien l'Eucharistie est liée à cette sagesse de la croix. Combien il en est la manifestation. Mais l'ultime moment de cette sagesse de la croix nous est donné par le cri de soif, par le silence du Père, par le coup de lance. Et la mise au tombeau. Et tout ça, c'est. Tout ça nous parle de la sagesse de la croix. Tout ça nous fait comprendre le mystère de la sagesse de la croix. Dieu a voulu que ce soit de cette manière-là, que la sagesse de la croix nous soit donnée, nous soit manifestée et donnée. Alors je crois que chacun de ces moments-là exprime quelque chose de très particulier. L'Eucharistie, nous y reviendrons. Le cri de soif. Jésus veut montrer que l'holocauste de la croix, si merveilleux qu'il soit, ne peut pas manifester parfaitement l'amour qui est dans le cœur de Jésus. Il y a une inadéquation entre cet amour vécu dans le cœur de Jésus et la manifestation par la croix. Il y a un mystère qu'on doit saisir dans sa source, c'est-à-dire dans le cœur de Jésus, et qu'on ne saisit pas de l'extérieur, et qu'on ne peut pas saisir de l'extérieur. Toute liturgie, si parfaite qu'elle soit, demande d'être dépassée. Si on veut la vivre divinement, c'est-à-dire si on veut vivre le mystère divinement, et le cri de soif exprime cela, exprime la soif du cœur de Jésus qui ne peut pas être manifesté par le mystère de la croix. Il y a quelque chose d'infini dans le cri de soif du Christ. C'est le mystère de l'amour du cœur de Jésus pour le Père et pour nous. Et là, il y a quelque chose d'infini. Si grand que soit le sacrifice de la croix, si merveilleux qu'il soit, il ne peut pas exprimer d'une façon exhaustive l'amour que Jésus a pour le Père et pour nous. Et donc le cri de soif, c'est un appel de Jésus de le rejoindre dans le mystère d'amour, vécu au plus intime de son cœur. Il y a une expérience dans le cœur humain du Christ, une expérience nouvelle qui n'a pas été vécue jusque-là. C'est pour ça qu'on doit demander à Jésus de la vivre. C'est la soif de l'amour. Et la soif de l'amour exprime un désir, c'est-à-dire un amour qui n'est pas entièrement satisfait. Un amour qui demande d'aller plus loin. Il y a la mise entre les mains du Père. Et cette mise entre les mains du Père, tout est achevé. Oui. Malgré le cri de soif, tout est achevé. Une espèce de contradiction entre les deux. Soif, c'est justement ce qui n'est pas achevé. Et Jésus, tout est achevé pour l'accomplissement d'Écriture. Tout est achevé. Et tout n'est pas achevé puisqu'il y a le coup de lance. Vous voyez, tout est consommé et entre deux, le cri et le geste. Et c'est le geste qu'est-ce qu'est le coup de lance? C'est le cœur de Jésus qui est blessé pour manifester la béance de son amour, l'abîme de son amour, pour montrer qu'il y a un aspect infini qui nous est révélé et qui est révélé après la mort pour que justement cette blessure soit le geste par excellence pour manifester l'amour, puisque c'est le geste de la plus grande passivité. Normalement, on respecte les cadavres, puisqu'ils ne peuvent pas répondre. C'est odieux de blesser un cadavre. C'est indigne d'un homme. Et le soldat l'a fait sans être en service commandé. Le coup de lance est d'une gratuité absolue. Vous lui avez demandé de constater la mort et d'achever s'il n'était pas encore mort. Alors Jésus est mort et il y a le coup de lance. Donc c'est une gratuité absolue dans un geste et manifester la plus grande passivité à l'égard du cœur. Le cœur a cessé de battre. Il y a le sang et l'eau qui coulent. Et c'est là où on voit comment tout doit s'achever dans le mystère du sépulcre. Caché aux yeux des hommes, séparé de Marie. Le silence du Père est séparé de Marie.